Bonsoir Julien Aubert.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. On va parler de Michel Barnier. On a un sondage Elab qui est publié ce soir, réalisé par Bernard Sananès, qui montre que Michel Barnier, personnellement, est jugé courageux, compétent, mais que sa politique aujourd'hui devient impopulaire. Alors je vous pose la question, Alain, est-il un bon Premier ministre ?
Bon, alors je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut dire d'entrée de jeu, parce que ça commande largement le reste. C'est que depuis le début de la Ve République, on n'a jamais eu un Premier ministre prenant le pouvoir dans des conditions politiques aussi difficiles et dans des conditions financières et budgétaires aussi périlleuses. Mmh. Bon, donc au départ, il faut avoir ça en tête. Alors, les Français pensent qu'il est courageux et compétent. Je suis assez d'accord avec les Français. C'est un homme courageux et il comprend les choses. Les Français lui reprochent de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez proche d'eux. Et là, je trouve que c'est injuste parce que visiblement, non seulement en tête, mais dans toute son expérience, dans tout son passé, effectivement, il a toujours fait très attention, aussi bien sur un plan local que sur un plan national, d'écouter les gens. Maintenant, je trouve aussi que dans des circonstances aussi compliquées, ce qu'il propose est trop conventionnel et trop timide. Je trouve qu'on est dans une période exceptionnelle, et dans une période exceptionnelle, il faut non pas prendre la totalité des mesures qu'on connaît par cœur. On voit tout l'arsenal, là. On n'est jamais surpris par ce qui est proposé, ni par lui, ni d'ailleurs par les oppositions. Chacun est sur son registre et c'est banal. Et moi, je pense que dans ces cas-là, il faut faire des propositions qui soient plus atypiques. Bon, par exemple, il y a des parlementaires qui ont proposé de vendre des privatisations de l'État. On l'a déjà fait dans des circonstances de ce genre.
C'est ce que dit Olivier Grégoire, notamment.
Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché, ça n'a pas eu d'inconvénient. Bon, évidemment, par la suite, on perd une partie des revenus qu'on tirait de ces entreprises. Mais ça a permis de passer intelligemment des traversées difficiles. Bon, on peut faire ça. On peut aussi dire, puisqu'il y a 10% des Français qui paient 70% de l'impôt sur le revenu, on peut imaginer de faire pour un an, par exemple, une désindexation pour les 10% de Français qui ne seront pas contents, mais qui ne seront pas non plus aux abois. Ou bien on peut, il y a eu 3 premiers ministres qui ont eu à gérer des crises aussi difficiles que ça, qui étaient Antoine Pinet, Raymond Barre et Édouard Balladur. Et les 3 ont fait quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas annoncé, mais qui a marché, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire des grands emprunts, le cas échéant obligatoire. Alors évidemment, c'est de l'endettement, mais c'est de l'endettement national. Donc vis-à-vis des marchés, ça n'a pas du tout les inconvénients habituel. Donc, moi, je pense que dans une situation comme la nôtre, c'est ça, il faut être plus audacieux.
Plus original, plus audacieux.
Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la manière dont Michel Barnier est perçu, et ensuite la qualification de sa politique, parce que vous êtes parti sur la qualification de sa politique, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, dont on va peut-être pouvoir débattre. Sur la perception, il y a d'abord un problème de légitimité. C'est que pour un grand nombre de Français, ils ont estimé qu'ils avaient été un peu floués. Soit qu'ils aient voté à gauche et que le NFP n'ait pas le pouvoir, soit qu'ils aient voté RN et qu'il y ait eu ce barrage. Or, on est à un moment où on demande un consentement maximal de l'impôt via le Parlement qui a été inventé, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, justement pour ça, à un moment où il n'y a pas de consentement politique parce que beaucoup de Français ne voulaient pas soit de la reconduction d'Emmanuel Macron, ou en tout cas des macronistes, soit voulaient une alternative plus radicale. Donc je crois qu'il y a d'abord une ambiguïté. C'est que ça n'est pas véritablement, je l'ai déjà dit ici, un gouvernement comme les autres, puisqu'il n'a pas de majorité, parce qu'il n'est pas le reflet de la majorité, enfin, de ce qui était voulu par le pays. Il est quelque part le plus petit dénominateur commun, ce qu'on appelle aujourd'hui le socle. Et Michel Barnier a une grande qualité dans ce chaos, c'est qu'il est responsable. Je ne sais pas s'il est courageux, mais en tout cas, il est responsable. Il dit, bah, écoutez, voilà, le travail est immense. Personne ne veut le faire, personne.
C'est déjà courageux de s'y atteler.
Voilà, c'est courageux de s'y atteler.
Ça serait mieux réussi.
Oui, mais Alain dit il manque un peu d'audace.
Alors, après, sur la qualification de la politique, d'abord, il y a des contradictions. On ne peut pas couper les crédits, par exemple, de France 2030, qui est le grand programme d'investissement, et en même temps dire il faudrait faire un emprunt national. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la recherche de la dépense inutile, on confond la recette de fonctionnement et la recette, la dépense de fonctionnement et la dépense d'investissement. Toute dette n'est pas mauvaise en soi. Deuxième ambiguïté, à mon avis, qui est très mauvaise pour le débat qu'on traverse, c'est que, j'ai fait une tribune dans le Figaro là-dessus, qui disait l'orthodoxie budgétaire ne suffira pas. Vous avez des gens qui disent, bon ben voilà, il faut faire comme Pinet, hein, il faudrait déjà équilibrer nos dépenses et nos recettes, et on va se remettre dans, je dirais, le droit chemin. Moi, je crois que derrière toutes ces questions de court terme, il y a un problème de modèle de société. Oui. Parce que les dépenses sociales ont explosé, et elles mangent en réalité l'État, les dépenses de transfert... Hein, et quand on vous parle de la transition écologique et de la transition démographique en même temps, tout ça a un impact terrible. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Moi, je ne suis pas sûr.
Alors, en ce qui concerne la réforme de l'État, pratiquement tout le monde reconnaît qu'elle est nécessaire. Alors, pour des raisons différentes, et puis chacun a ses propositions. Mais qu'on ait un État obèse, donc trop coûteux, et pas assez efficace, ça, je crois que c'est une idée qui est largement partagée.
Tout dépend de ce qu'on appelle l'État.
L'ensemble des interventions publiques.
D'accord. Donc,
c'est-à-dire...
La sphère publique.
C'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la sécurité sociale.
Aussi les collectivités locales.
Les collectivités locales, oui. Absolument. Bon, on sait que ça fonctionne mal, que ça coûte trop cher, et que ça ne rend pas... tous les services qu'on devrait en attendre compte tenu notamment de l'importance de l'impôt et des cotisations sociales. Bon, ça c'est une réalité. Ça implique une vraie réforme de fond. Cette réforme de fond, on ne peut évidemment pas la faire avec une absence totale de majorité. C'est pas la peine de raconter qu'on va faire des grandes réformes de fond. Aujourd'hui, on aura toujours une forte majorité à l'Assemblée nationale pour s'y opposer. C'est totalement écrit d'avance.
C'est des réformes qu'on peut faire après une présidentielle.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est, un, dans l'immédiat, on peut être quand même plus créatif, plus audacieux, et en plus plus rapide, avec des choses à faire qui, par-dessus le marché, peuvent avoir un aspect psychologique, puisqu'elles sont atypiques, qui sera positif à un moment où les Français ont quand même envie d'être réconfortés et d'avoir des perspectives différentes. Donc, ça aurait beaucoup d'avantages. Et en revanche, puisqu'on est à 2 ans de l'élection présidentielle, de faire de la réforme de l'État le sujet de discussion, et puis de prendre des positions et de faire des propositions, même si par nature, il faut pas se raconter d'histoire, pour la réforme de l'État, au sens le plus large, les propositions ne feront jamais l'unanimité ni de près ni de loin. Simplement, il y a un moment où elles sont nécessaires.
Oui, mais c'est là où on manque de créativité. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a quelque chose de déprimant parce que, effectivement, dans cet exercice budgétaire, on ne règle pas le problème. On veut d'abord, un, envoyer un signal au marché comme quoi on a compris le problème. Donc on sait qu'on ne va pas le résoudre, mais on donne l'impression qu'on va le résoudre.
D'aller dans le sens de ce que les orthodoxes le souhaitent.
Voilà. On s'achète du temps.
On s'achète du temps, sauf qu'il y a 2 ans, voire 3 à tenir, et moi je ne suis pas certain que ça puisse, parce que compte tenu, je dirais, des vrais débats qui sont derrière. Pour moi, il y a des contradictions majeures. On le voit d'ailleurs sur la décentralisation. On nous explique que d'un côté, les collectivités sont bien gérées puisqu'il y a un équilibre sur les dépenses de fonctionnement, et de l'autre, on nous dit
l'inverse. Il est obligatoire.
On nous dit oui, non, mais et de l'autre, on nous dit mais vous comprenez, regardez, c'est elle qui contribue au déficit. Le citoyen, voyant des gens très compétents s'envoyer des noms d'oiseaux pour savoir si les collectivités locales ou pas sont les principales responsables du déficit, n'a pas la réponse.
Ça n'est pas sérieux de dire que ce sont, je ne dis pas ça pour vous, mais ça n'est pas sérieux de dire que ce sont les collectivités locales qui sont les responsables du déficit global.
Non, mais Bruno Le Maire a pointé un doigt.
En revanche, qu'elles y prennent une part... Et notamment en ce qui concerne le personnel, ça c'est un fait.
Oui, mais pas on a gagné 1 million de fonctionnaires.
Pas en ce qui concerne les investissements.
Oui, mais le vrai débat,
parce que
c'est
ça,
quoi ?
C'est ce qu'on leur demande. Et ils le font. Et elles le font, les collectivités locales.
Pas elles le peuvent, parce que les départements, malheureusement.
Oui, c'est quand même elles qui font l'essentiel des investissements publics, en fait.
Il y a quand même des investissements de l'État.
Mais c'est elles qui font la plus grosse part des investissements publics.
Oui, enfin, elles contribuent. Mais la difficulté, c'est que, vous voyez bien que tout le monde. Prend sa lyre pour célébrer la décentralisation. Je ne connais pas un homme politique qui critique la décentralisation.
Ouais.
Et en même temps, vous voyez où 40 ans de décentralisation nous a amené. 1 million de fonctionnaires en plus, une superposition des échelons. Donc le vrai débat, c'est quoi ? Si on a du temps, si on prend 3 ans, c'est de se dire, est-ce qu'on peut garder 4 niveaux de collectivité ? Qu'est-ce qu'il faut supprimer ? Comment est-ce qu'on organise les compétences ?
Vous supprimez quoi, vous ?
Ah, moi, je suis pour la commune et le département. Je suis pour la commune.
Supprimer la région.
Non, je supprime pas la région. Moi, je serais pour que la région
soit en fait les communautés de communes.
Et je serais pour les intercommunalités soient des structures de coopération intercommunale et pas des structures politisées, et que les régions soient des structures de coopération interdépartementale, ou en tout cas que les départements soient des sections des régions, mais que ce soit bien l'élection du conseil départemental qui l'emporte sur le conseil régional, et pas des espèces de conseillers régionaux élus par département sur des listes à la proportionnelle.
Bon, je vous signale que quand j'étais étudiant en Sciences Po, 30 ou 40 ans avant que vous le soyez à votre tour, c'était très exactement déjà ce qu'on disait.
Oui, mais c'est pas ce qu'on a fait.
Et que ça ne s'est pas fait.
Non. Non,
c'était toujours la réforme de l'État est à l'ordre du jour.
Oui, mais
elle y est toujours.
Mais vous savez pourquoi?
Elle avance
parce qu'on a un désaccord profond sur ce que doit être l'État. Donc, on devrait avoir un débat sur est-ce que l'État doit agir en économie ou pas. Moi, je pense que on a besoin aujourd'hui d'un État colbertiste dans la mondialisation, que le tout marché s'est terminé. Donc, on a besoin d'un État colbertiste. Mais c'est pas l'État socialiste. C'est pas forcément l'État qui fait des chèques énergie. Bon. Et deuxièmement, qu'on a besoin effectivement d'une vraie décentralisation. C'est-à-dire, si pour la commune, au lieu d'avoir un État qui décide pour lui, c'est la région qui décide pour lui parce qu'il y a une espèce de tutelle qui dit pas son nom, ça n'a absolument rien changé. Oui. On a raccourci le maillet, la taille du maillet, comme disait Odilon Redon pour Napoléon. Voilà, c'est le même marteau dont on a raccourci le manche. Reste que, aujourd'hui, on a besoin d'une vraie décentralisation et donc d'une responsabilisation des acteurs pour que les gens fassent le lien entre compétences et...
Mais vous êtes bien d'accord sur le fait que, d'une part, ce sont des thèmes qui sont assez largement répandus, mais qui sont répandus depuis un demi-siècle, sans qu'ils avancent, et s'ils n'avancent pas, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et d'autre part, que, en tout cas, pour essayer de prendre ce problème-là à bras-le-corps, parce que c'est un problème énorme, il faut évidemment avoir une majorité présidentielle et une majorité parlementaire.
Totalement.
Hein, on ne fera pas ça, on ne va pas convaincre de l'extrême gauche à l'extrême droite tout le monde d'adopter les mêmes solutions en même temps, ça ne se fera pas.
Déjà, la gauche n'est pas d'accord avec une partie de notre diagnostic, c'est-à-dire que pour une partie de la gauche, il faut plus de moyens. Et donc, il est hors de question de diminuer la dépense. Donc déjà, on a quand même un sujet là-dessus. C'est qu'il y a une partie du pays ne comprend pas, je dirais, la question de l'équilibre. Donc c'est un vrai sujet. Bon.
Oui, mais mais dans le sondage de Bernard Sananès et l'AB, les Français ne croient pas Michel Barnier lorsqu'il explique qu'il va surtout réduire les dépenses avant d'augmenter les impôts. Ils ont l'impression qu'on va beaucoup augmenter les impôts, que ça va concerner tous les Français et que la promesse de réduire les dépenses, elle n'est pas crédible.
Bon, alors
est-ce qu'ils sont
je crains
ils ont raison ou pas?
Je crains qu'ils n'aient pas tort.
Ah oui, Français. Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que je crains que la réduction des dépenses, comme d'habitude. On sait très bien qu'en France, on est très doué pour augmenter les impôts et pas doué du tout pour diminuer les dépenses. Et dans la présentation qui est faite, hein, c'est, puisqu'il faut 60 milliards, c'est 20 milliards d'impôts supplémentaires, dit le gouvernement, et 40 milliards de diminution des dépenses. Alors, deux choses. Un, quand on dit diminution des dépenses, on se moque un peu du monde parce qu'il ne s'agit pas de diminuer les dépenses, il s'agit de diminuer le rythme d'augmentation des dépenses.
Ralentir l'augmentation.
C'est pas du tout pareil.
Non, c'est pas pareil.
C'est ça qui est proposé. D'autre part, il y a des organismes officiels, hein, c'est pas des journalistes comme vous ou moi, c'est des gens sérieux comme Julien Aubert. Il y a des organismes officiels qui disent en fait c'est pas du tout 20 et 40, c'est l'inverse. Bon, c'est quand même embêtant de ne pas savoir qui dit les choses réellement en ce moment. Et c'est pour ça que moi, je suis assez sceptique sur l'idée de dire on va réussir à diminuer les dépenses. Non, on va réussir à diminuer l'augmentation des dépenses, et pas assez. Et surtout, j'insiste là-dessus, pas avec les bonnes techniques.
Oui, mais...
On prend les vieilles recettes qu'on a utilisées 150 fois, qui n'ont jamais amélioré les choses à terme, alors que c'est le moment... quand même, dans une situation aussi difficile que celle qui existe réellement, eh ben c'est le moment de bouger et puis d'employer des méthodes un peu plus créatrices, nouveautés, et qui intéressent.
Mais rappelons quand même que pour les dépenses sociales, c'est majoritairement les questions de retraite, et que ça, quand on dit réduire la dépense, ça veut dire désindexer les pensions, donc c'est un vrai sujet politique.
En tout cas, les pensions les plus élevées.
Que quand on parle de réforme de l'État, en réalité, ce sont le nombre de fonctionnaires. Et donc, vous pouvez supprimer des agences, comme j'entends parfois. Mais vous aurez les fonctionnaires, parce qu'ils sont
gérés
sur statut pérenne. Donc,
en revanche, on n'est pas obligé d'en embaucher au même, rythme.
On peut même revoir le statut des fonctionnaires.
Le vrai débat, ce serait de revoir le statut des fonctionnaires pour l'avenir, en ayant conscience que les effets des économies seront perceptibles dans 10 ou 20 ans, mais surtout, en n'expliquant pas aux fonctionnaires de ce pays qui ont la mission d'intérêt général et de service public au cœur de leur vie, qu'en réalité, ils sont juste un coût sur un tableau Excel. C'est sûr que quand on adopte, si vous voulez, l'État en disant « vous n'êtes juste qu'un coût », mais la police, c'est un coût. Il n'y a pas de recette dans la police, mais pourtant, il y a un gain social.
Enfin, les administratifs à l'hôpital... Non, ben,
voilà, exactement. Non,
mais, qui sont plus nombreux chez nous qu'en Allemagne, par exemple.
Non, on sait très bien que dans les hôpitaux publics, il n'y a pas assez de soignants et il y a trop d'administratifs.
On l'a dit pendant le
Covid. On sait dans les hôpitaux publics aussi que le problème, c'est que quand vous n'avez pas assez d'administratifs, vous avez des gens qui sont rentrés à l'hôpital pour faire un travail de soins et qui se retrouvent à gérer la bureaucratie. On devrait quand même, un, s'interroger de savoir si on a besoin d'avoir autant de normes et de, je dirais, de contraintes bureaucratiques avant de se demander si on ne devait pas recruter des gens pour faire ce travail. Et puis, j'ajoute quand même quelque chose. C'est la complexité de la pensée. La transition écologique. On dit la transition écologique. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc c'est de la dépense. Faire une transition écologique, c'est dire aujourd'hui, je m'habille, je me déplace, je me loge d'une telle manière, je suis prêt à payer plus au nom de la planète. Donc à un moment donné, ça se retrouve dans les comptes. Et il faut bien comprendre que le vrai débat, c'est de savoir si on peut se payer une transition écologique 3 étoiles, et en même temps d'avoir une transition démographique avec une partie du pays qui va avoir plus de 70 ans, les frais de santé, les frais de retraite.
Et la natalité qui baisse.
C'est bien pour ça que entre notre endettement, qui est une réalité, on ne peut pas tourner autour, et dont le coût ne cesse de s'alourdir, entre le déficit budgétaire, qui est une réalité aussi, et entre, effectivement, ce qu'on va devoir dépenser, qui est inévitable. On peut discuter le rythme, on peut discuter les points, mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est évident qu'il faut faire des choses qui seront coûteuses, qui gêneront, qui diminueront des revenus et qui impliqueront des charges supplémentaires. Eh ben, ça n'est pas le moment, justement, de se satisfaire simplement des mesures les plus classiques et les plus banales, parce qu'elles ne correspondent pas à la situation.
Oui. Pendant que vous parliez, oui. Fabien Roussel, le communiste, propose d'embaucher 600 000 agents publics supplémentaires.
Et pourquoi ? D'où vient ce chiffre ? Non, mais c'est à un moment donné, on a des besoins dans certaines parties de l'administration. Le problème, c'est qu'on a aussi des fonctionnaires qui sont sans affectation. On a des collectivités territoriales qui ont fait du recrutement clientéliste, il faut le dire.
Bah oui, ils ne travaillent pas aux 35 heures. On a appris que certaines collectivités étaient aux 32 heures.
Après, il y a en plus la question du temps. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Le problème, c'est que l'État aujourd'hui du droit, vous ne pouvez pas dire ces gens-là, on les licencie.
Mais Fabien Roussel, c'est un homme qui est extrêmement sympathique. Oui. Qui est animé, qui de temps en temps dit des choses qui sont populaires. Ce qu'il propose en matière économique, ça ressemble quand même beaucoup à ce que disaient ses prédécesseurs à la tête du Parti communiste il y a 50 ans.
Oui.
Merci à tous les deux.